à Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition du 11 octobre 2018. Trois militaires maliens tués et quatre blessés la nuit dernière dans le centre du Mali. Un collectif d'avocats camerounais exige la libération immédiate du leader anglophone Sisiku Julius Ayuk Taibé. 17 condamnés à mort en Égypte pour des attentats meurtriers contre des églises coptes. Ouverture du 17e sommet de la francophonie en Arménie où la rwandaise Louise Mushikiwabo sera nommée secrétaire générale de l'OIF. Et la Minute Éco et les sports, ce sera juste après le journal. Au Cameroun, les avocats des militants anglophones ont exigé leur libération immédiate et qualifient leur arrestation d'illégale. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Un collectif d'avocats camerounais a exigé jeudi la libération immédiate du leader anglophone Sisiku Julius Ayuk Taibé et de 9 autres militants, tous arrêtés au Nigeria, puis extradés au Cameroun en janvier dernier. Les avocats affirment qu'ils ont été arrêtés illégalement et doivent donc être relâchés. Les militants anglophones sont détenus au siège de la gendarmerie à Yaoundé. Hier, Donatus Ndiong, maire de Koumbo, une commune de la région anglophone du Nord-Ouest, a été enlevé. Son parti, le SDF, principal parti d'opposition, a confirmé l'enlèvement, pointant du doigt un des groupes séparatistes armés. Le pays attend les résultats de la présidentielle du 7 octobre où la participation a été faible en zone anglophone. Lundi, Maurice Kamto, l'un des principaux opposants au président sortant Paul Biya, a revendiqué la victoire, ce que le gouvernement a aussitôt qualifié d'illégal. Les États-Unis et l'Union africaine ont appelé toutes les parties à attendre la proclamation officielle des résultats et utiliser les moyens légaux pour contester.
L'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo a déclaré soutenir son ancien vice-président. Le principal candidat de l'opposition à la prochaine présidentielle, Atiku Abubakar, malgré des années de brouille entre les deux hommes. Monsieur Abubakar a été vice-président d'Obasanjo pour le Parti démocratique du peuple en 1999, mais leurs relations se sont dégradées quand Abubakar a voulu se présenter contre son mentor à la présidentielle de 2007. Trois militaires maliens ont été tués et quatre blessés la nuit dernière dans le centre du Mali. Leur véhicule a sauté sur une mine alors qu'ils venaient de Boulkessi à la frontière avec le Burkina Faso. La mine a explosé à son passage entre Djungani et Koro. Trois employés du Comité international de secours ont été arrêtés mercredi dans l'ouest du Burundi pour avoir violé l'interdiction de travailler frappant les ONG étrangères depuis le 1er octobre. Hier à 14h30, la police de Muyinga a surpris trois agents de l'IRC au travail alors qu'on a interdit le travail des ONG, a indiqué le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkourikiye. Le parquet de Paris a requis le renvoi aux assises de Laurent Boussy-Baruta, un ancien préfet rwandais poursuivi pour son implication présumée dans le génocide de 1994 au Rwanda. Il accuse Monsieur Boussy-Baruta d'avoir ordonné des actes de génocide et de crimes contre l'humanité entre avril et juillet 1994. La police zimbabwéenne a arrêté des dirigeants syndicaux qui appelaient à une journée de manifestation pour dénoncer l'aggravation de la crise économique. Je confirme l'arrestation du président de la Fédération des syndicats du Zimbabwe, Peter Mutaza, et de son secrétaire général Japhet Moyo à leur bureau, a déclaré le porte-parole des avocats zimbabwéens des droits de l'homme, Kumbira Mafunda. Et des dizaines d'autres syndicalistes ont également été interpellés à Harare, Masvingo et Mutare, a-t-il ajouté. L'homme d'affaires tanzanien Mohamed Jewi a été enlevé par des hommes armés à Dar es Salaam, ont indiqué les autorités administratives et policières. Dirigeant du groupe METL, spécialisé dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'assurance et des transports, le milliardaire a été kidnappé quand il entrait dans la salle de sport d'un hôtel de la capitale économique, selon les autorités. En Égypte, 17 personnes ont été condamnées à mort ce jeudi par un tribunal militaire pour des attentats contre des églises. Ces attaques avaient fait 74 morts en 2016 et 2017. Abdourahman Dia nous en dit plus.
En plus de ces peines capitales, 19 autres ont été condamnés à la prison à perpétuité et 10 autres de 10 à 15 ans d'emprisonnement. Les 46 autres ont été reconnus coupables du meurtre de 74 personnes et de tentatives de meurtre. Les poursuites ont été abandonnées contre 2 personnes décédées pendant la procédure. Peu après ce verdict, Amnesty International a publié un communiqué disant qu'il n'y a aucune justification aux attentats ayant visé les églises coptes, mais prononcer une peine de mort collective après un procès militaire injuste ne dissuadera pas les auteurs de futurs attentats. Toutes ces attaques depuis 2016 au Caire et dans 2 autres villes ont été revendiquées par le groupe État islamique. Par la suite, le président Abdel Fattah al-Sissi a instauré l'état d'urgence qui a été prolongé à plusieurs reprises.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À l'ouverture du 17e sommet de la francophonie en Arménie, le président français Emmanuel Macron a appelé à réinventer l'organisation qui doit être, selon lui, un lieu de reconquête des valeurs comme les droits humains. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le président Emmanuel Macron a déclaré que la francophonie doit davantage promouvoir la langue française, en particulier dans les échanges et les institutions internationales. On doit pouvoir échanger, négocier, proposer des initiatives dans notre langue. L'anglais est devenu une langue de consommation, a laissé entendre M. Macron. Il a souligné que le premier combat de la francophonie, c'est la jeunesse, particulièrement en Afrique. Il a souhaité une révision des modalités d'adhésion à l'OIF. L'Arabie saoudite a retiré sa demande pour être membre observateur. Par contre, la Gambie, l'Irlande, la Louisiane et Malte ont été acceptés sans droit de vote. Le président français a appelé à lutter contre l'oppression faite aux femmes et le recul de l'éducation des jeunes filles. L'avenir de l'Afrique sera féministe, a lancé Emmanuel Macron, alors que le sommet devrait nommer la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'organisation en remplacement de la Canadienne Michaëlle Jean.
Dans un communiqué rendu public, le directeur de l'Agence américaine pour les médias internationaux, John Lansing, se dit profondément troublé par la disparition du journaliste saoudien, contributeur du Washington Post, Jamal Khashoggi, et se joint à l'appel général pour obtenir des informations sur ses déplacements. Des journalistes du monde entier, y compris ceux qui travaillent pour les 5 réseaux de l'USAGM, dont la Voix de l'Amérique, voient leur vie menacée lorsqu'ils rapportent la vérité, a-t-il déclaré, soulignant que les gouvernements corrompus et répressifs partagent un trait commun, le désir de contrôler l'information et de supprimer la liberté des médias. Personne ne devrait être autorisé à faire taire les journalistes. USAGM, à l'instar de Khashoggi, comprend qu'un monde informé est un monde plus sûr et c'est un préalable pour que la démocratie fonctionne, conclut M. Lansing. Donald Trump a de nouveau mis en garde la Chine sur le plan commercial, accusant Pékin de penser que les Américains sont bêtes dans une interview avec la chaîne Fox News. Il a repris ses reproches selon lesquels la Chine doit son expansion économique à l'argent américain et à ses excédents commerciaux à l'égard des États-Unis. Nous avons aidé à reconstruire la Chine plus que tout autre. La Chine nous prenait 500 milliards de dollars par an, mais maintenant c'est fini, a-t-il déclaré. Le président américain Donald Trump reçoit aujourd'hui à déjeuner à la Maison Blanche le rappeur de Chicago Kanye West. « Je l'aime beaucoup, c'est un ami à moi, je le connais depuis longtemps », a déclaré le président Trump lors d'une interview à Fox News. Kanye West avait apporté son soutien à Donald Trump après son élection en novembre 2016. Scène de désolation dans le nord-ouest de la Floride après le passage de l'ouragan Michael. Les vents extrêmement violents ont causé la mort d'au moins 2 personnes. Les détails avec Nani Talani.
L'étendue des dégâts n'est pas encore bien déterminée, tout comme le bilan des victimes. Pour l'instant, les autorités ont confirmé 2 décès. En Géorgie, une fillette de 11 ans a été tuée lorsque les débris d'un garage sont tombés sur sa maison. En Floride, une personne a été tuée par un arbre déraciné. Le gouverneur de la Floride, Reid Scott, n'exclut pas une révision du bilan à la hausse après ce qu'il qualifie de catastrophe impensable. Les rues de Panama City, station balnéaire frappées en première ligne, sont jonchées de branches d'arbres, toitures arrachées, morceaux de verre. Certaines maisons en bois sont déchiquetées. Des milliers de soldats et de secouristes sont engagés dans une vaste opération de recherche et de sauvetage dans les décombres des maisons et dans les zones inondées peu accessibles. L'ouragan Michael, qui a été déclassé en tempête tropicale, touchera la Caroline du Nord et le sud de la Virginie avant d'aller s'éteindre demain dans l'Atlantique.
La fusée Soyouz qui devait transporter l'astronaute américain Nick Hague et le cosmonaute russe Alexei Ovchinine vers la station spatiale internationale a connu une défaillance de moteur après son décollage, contraignant l'équipage à revenir sur Terre. Les deux astronautes sont indemnes et ont été récupérés par les services de secours.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur l'élection présidentielle de dimanche dernier au Cameroun. Le pays est dans l'attente des résultats, mais l'un des candidats de l'opposition, Maurice Kamto, a d'ores et déjà revendiqué la victoire face au président sortant Paul Biya. Cette proclamation jugée prématurée pourrait-elle donner lieu à une crise post-électorale dans ce pays déjà confronté aux troubles dans les régions anglophones? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
À présent, la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
La Côte d'Ivoire prévoit d'investir plus de 3 800 milliards de francs CFA dans l'éducation sur la période 2018-2020. Le président Alassane Ouattara, qui a fait cette annonce, estime que cet investissement permettra de relever les défis tels que l'amélioration de la qualité des apprentissages, la qualité des enseignements, la question de l'adéquation formation-emploi. Alassane Ouattara évoque également l'utilisation du numérique dans les universités et la réforme des curricula afin d'amener les universités à former des citoyens engagés pour la transformation de la société. Des entreprises autrichiennes, japonaises et françaises sont en lice pour la construction d'un pont au Kenya d'une valeur de 200 millions de dollars. Ce deuxième pont de Niali est un ouvrage de 6 voies entre Mombasa et l'île qui lui est adjacente. Ce projet est le 5e annoncé au Kenya dans le domaine des infrastructures de transport depuis le début de l'année 2018. Le plus important est celui de la construction d'une zone économique spéciale à 3,6 milliards de dollars. Au terme du troisième trimestre 2018, la valeur des fusions-acquisitions impliquant des entreprises basées en Afrique subsaharienne a été de 9,2 milliards de dollars. C'est le niveau le plus bas depuis 2007. Il y a un repli de 64% de la valeur des fusions-acquisitions dans la sous-région.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Les qualifications pour la CAN 2019.
Oui, les Diables Rouges du Congo dominent à domicile 3-1 le Libéria. Ndokit, Ibarra et Onyang sont les buteurs. Une victoire importante qui relance le Congo-Brazzaville avant le match RDC-Zimbabwe. Hier, les Chipolopolo ont enregistré leur premier succès dans ces éliminatoires face à la Guinée-Bissau. 2-1, les buteurs Stopila Sunzu et Justin Chonga ont inscrit les buts de cette victoire de la Zambie. Les Licaons Bissau-Guinéens ont réagi trop tard. Dans ce groupe, le Mozambique, la Zambie et la Guinée-Bissau sont désormais à égalité. L'Éthiopie et le Kenya avaient fait match nul un peu plus tôt dans le groupe F.
Et demain, d'autres matchs ?
Djamel Belmadi et les Fenech algériens affrontent le Bénin. Ce sera vendredi à Blida. Le Cameroun accueille le Malawi. L'Angola face à la Mauritanie. La Guinée contre le Rwanda. Le Gabon face au Soudan du Sud. À Bouaké, la Côte d'Ivoire contre la Centrafrique. Togo, Gambie, le Burundi en déplacement au Mali. L'Égypte qui accueille Iswatini, l'ex-Swaziland. Et puis le Cap-Vert face à la Tanzanie.
La Ligue des Nations reprend ses droits en Europe.
À suivre notamment le Portugal sans Cristiano Ronaldo face à la Pologne et du côté de la Russie, l'Azbornaïa qui affronte la Suède. L'Écosse se déplace en Israël, le Monténégro face à la Serbie, la Lituanie contre la Roumanie, les îles Féroé face à l'Azerbaïdjan et le Kosovo face à Malte.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Au Mali, le gouvernement a ordonné la réquisition des magistrats en grève illimitée. Cette décision lui permet d'entreprendre la gestion des juridictions malgré cette grève. Pour les grévistes, cela ne change en rien et ce qu'ils ont entrepris et ils disent qu'ils vont répondre de façon syndicale et juridique à cette réquisition. Kassim Traoré nous en dit plus depuis Bamako.
La grève illimitée des magistrats a poussé le gouvernement à prendre un décret de réquisition. Diarra Arakitala, ministre de la fonction publique et des relations avec les institutions.
Décrète article 1er. Les magistrats occupant les emplois dont la liste est jointe sont réquisitionnés d'office, conformément aux articles 2 et 6 de la loi 8748 ANRM du 10 août 1987 relative aux réquisitions de personnes, de services et de biens. Article 2. Les chefs de juridiction, les procureurs généraux et les procureurs de la République sont également tenus de réquisitionner tout magistrat sous leur autorité pour la tenue des audiences ou la délivrance des actes qui requièrent urgence et célérité.
Dramane Diarra, procureur près le tribunal de grande instance de la communication.
La loi 87-048 qui, en cas d'état d'exception, permet à l'administration de requérir des services ou de requérir personnes ou même des biens pendant un temps ou de façon permanente. Ça aussi, c'est encadré par la loi. La réquisition n'est pas hors la loi. Les gens peuvent vraiment épiloguer là-dessus parce que vous savez, chaque fois qu'il est question de quelque chose pour la première fois, il y a beaucoup de salive et d'encre. Sinon, c'est bien ancré, c'est dans la loi.
Le porte-parole des magistrats grévistes se dit serein. Alou Badra Nanakassé, président par intérim du SAM.
Je crois qu'on ne devait pas arriver à cette extrémité qui est une première en République du Mali. La loi portant sur la réquisition est bien claire. Nous sommes des juristes, nous savons faire la lecture de cette loi. Nous ne sommes ni impressionnés par la mesure et nous ne serons pas divertis par quoi que ce soit. Nous nous assumerons jusqu'au bout de la façon la plus légale et de la façon la plus ferme. Et rien ne saurait ébranler notre dynamisme.
Certains juristes commentent cette décision qui est attaquée aujourd'hui par les magistrats grévistes. Cheikh Mohamed Chérif Kone, de l'Union internationale des magistrats.
Le recours du pouvoir exécutif à la réquisition des magistrats en tant que fonctionnaire de l'État au sens de l'article 77 du Code pénal, certes encore inédit, est loin d'être une violation de la loi ou une quelconque forme d'atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, lequel n'est incarné ou exercé par des syndicats de magistrats. Dans la situation en présence, ce recours à la réquisition imposé à l'exécutif apparaît comme la traduction concrète du devoir incombant à celui-ci d'assumer les responsabilités qui sont les siennes dans la restauration de l'ordre public républicain.
Pour les Maliens moyens, il est temps que l'État trouve une solution définitive à cette grève illimitée.
Moi, je propose que le gouvernement de la République doit tout faire pour régler ces problèmes-là. Mettre en contact, rentrer toujours en contact avec les grévistes, discuter avec eux, dialoguer avec eux pour faire une sortie de crise. Tant qu'on n'aura pas une sortie de crise dans l'amiable, on n'aura pas de solution. Le gouvernement de l'autre côté, les syndicats de l'autre côté, je pense que le gouvernement doit jouer la carte sur table, c'est-à-dire la balle à terre et négocier les grévistes et trouver une solution.
Cette grève des magistrats risque d'empêcher la tenue des législatives si l'on sait que le casier judiciaire que les magistrats doivent délivrer n'est pas à la disposition de tous les potentiels candidats. C'est pour cela que le Premier ministre a fait une demande de report des législatives au niveau de la Cour constitutionnelle. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24. Au Sénégal, près de 7000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année. Le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer. Communément appelé Octobre Rose, c'est l'occasion pour les autorités sanitaires et associations de poser des actes concrets. Incontournable dans ce combat, la Ligue sénégalaise contre le cancer compte subventionner plus de 2000 mammographies à Dakar et dans plusieurs régions. Voici le reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Découvert tardivement, le coût du traitement du cancer du sein est de 2 millions de francs CFA en moyenne, une somme exorbitante pour la majorité des femmes sénégalaises. Pour éviter à ces dernières la cherté de ce traitement, la LISCA leur permet de se faire dépister très tôt. Le docteur Fatma Guenoun est la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer.
Le cancer du sein, c'est le premier cancer au Sénégal. C'est un cancer qui se dépiste que par un examen mammographique qui est assez coûteux au Sénégal, entre 60 et 80 000 dans le privé. Et grâce à nos partenaires radiologues qui ont réduit le coût à 30 000 francs, on s'est dit que 30 000 c'est assez coûteux pour la femme qui veut se dépister. Et la femme ne payera que 15 000 francs et la LISCA supporte la moitié, le reste.
Pour la LISCA, l'implication des populations est à ce jour l'une des plus grandes avancées dans la lutte contre le cancer. Bénévole à la LISCA, Maïmouna Dembélé indique que la stigmatisation est bien surmontée par les femmes.
C'est une excellente initiative de la LISCA et c'est pour pouvoir avoir le maximum de femmes parce qu'en général, le cancer est quand même un sujet tabou dans nos sociétés ouest-africaines. Les femmes, même pour les sortir de la maison, c'est assez compliqué. Et donc, quand on fait une journée de dépistage où elles savent qu'elles ne vont pas sortir un franc, en général, elles adhèrent.
Encouragée par les faveurs qu'offre la Ligue sénégalaise contre le cancer et consciente des dangers du cancer du sein, les femmes viennent de plus en plus se faire dépister. Sohna nous confie que c'est cela qui l'a poussée à venir.
Les conséquences du cancer du sein sont nombreuses. C'est pourquoi nous avons sauté sur l'occasion pour nous faire dépister, car c'est plus sûr. En plus, nous ne sommes pas toujours en mesure d'aller dans les hôpitaux car c'est trop cher. La consultation coûte entre 30 et 60 000 francs CFA. Donc ce genre d'initiative ne peut que nous motiver et nous pousser à nous dépister.
Pour les cas suspects, des bons de consultation sont offerts pour un suivi médical. Au-delà du dépistage, la prise en charge psychologique des cas positifs est d'une importance capitale, comme l'affirme le professeur Momodou Diop, chirurgien cancérologue et directeur de l'Institut du cancer.
Il faut faire comprendre aux femmes qui ont souvent peur de se faire dépister que cela peut se guérir, surtout quand le diagnostic est fait tôt. Et parfois, le traitement il peut être très invalidant. Il peut comporter, par exemple, l'amputation du sein. Même la chimiothérapie, ça demande une certaine approche. Et c'est pourquoi les psychologues ont un rôle extrêmement important.
Cette année, près de 3000 femmes vont bénéficier du dépistage gratuit et plus de 2000 mammographies seront subventionnées par la LISCA. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Bonjour, c'est Abdourahmane Dia. Retrouvez-moi à 18h temps universel dans votre émission À votre avis sur VOA Afrique. Et on va parler de détention préventive prolongée. Au Sénégal, un jeune arrêté en 2015 pour apologie du terrorisme après avoir posté un message sur les réseaux sociaux attend toujours d'être jugé. Sa mère a fait une sortie dans les médias pour demander que son fils soit jugé ou libéré. Et les ONG de défense des droits humains en ont profité pour dénoncer les longues détentions préventives. Beaucoup sont en prison sans jugement. Quelle est la situation dans vos pays respectifs? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
56 journalistes ont été tués dans le cadre de leur activité professionnelle durant les 9 premiers mois de l'année, selon un rapport de Reporters sans frontières. À savoir que 2017 a été l'année la moins meurtrière depuis 14 ans pour la profession. Alors comment expliquer ce regain de violence contre des journalistes? Pour un élément de réponse, Nani Talani a joint Pauline Hadès-Mével, responsable de la zone Union européenne et Balkans, pour Reporters sans frontières.
Nous avons publié un rapport et nous publierons un deuxième rapport en fin d'année. En fait, ce qui nous a alerté à Reporters sans frontières, c'est les chiffres extrêmement élevés de journalistes qui ont été tués dans le monde depuis le début de l'année 2018. On s'était enorgueilli que l'année 2017 soit la moins meurtrière depuis 14 ans pour la profession. Et là, 2018 inverse la tendance avec déjà 56 journalistes tués en raison de leurs activités professionnelles. Donc des chiffres qui sont dramatiques et qui montrent montre qu'il est urgent d'agir.
Qu'est-ce qui explique la montée de cette violence à l'égard des journalistes?
Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la montée de la violence contre les journalistes. Ce qui est certain, c'est que très très souvent aujourd'hui, les journalistes ne sont plus seulement des victimes collatérales, mais sont des cibles. Il faut réduire au silence des journalistes qui dérangent. Dans les zones de conflit également sont le lieu de nombreuses disparitions. Mais ce qui est clair, c'est que les chiffres sont actuellement mauvais et dramatiques parce qu'on doit déplorer des bilans très graves, par exemple en Afghanistan, avec 13 journalistes tués pendant le courant de l'année 2018. D'autres attentats dans lesquels les journalistes ont perdu la vie.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger les journalistes qui ne font que leur travail?
Reporters sans frontières a lancé une initiative il y a près de 3 ans et défend cette initiative qu'elle a portée à l'ONU. Elle souhaite la création d'un poste de représentant spécial pour la sécurité des journalistes auprès du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. C'était des échanges également qui avaient eu lieu avec Ban Ki-moon. Donc il faut qu'on amène à une prise de conscience sur la sécurité des journalistes, qu'on arrive à faire en sorte que ça devienne une question qui est centrale et que les autorités internationales, que les autorités locales, les pays où les journalistes sont en danger s'en saisissent pour mettre en œuvre des solutions et pour protéger les journalistes.
Et qu'en est-il de la nomination de ce représentant spécial? Est-ce qu'on est prêt de voir cette personne ou pas?
Les échanges sont de plus en plus fréquents et nous avançons avec les Nations Unies sur cette question. Il est difficile aujourd'hui de faire des projections, mais ce qui est certain, c'est que notre demande est prise en considération et que au cours des 2-3 dernières années, nous avons vraiment avancé pour que notre initiative soit soutenue et elle est très bien accueillie.
C'était Pauline Hadès-Mével, responsable de la zone Union européenne et Balkans, pour Reporters sans frontières.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ouverture du 17e sommet de la francophonie à Erevan en Arménie, où Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, doit être nommée secrétaire générale de l'OIF. La francophonie soutient la démocratie, la paix et les droits humains et renforce la coopération. L'Afrique est le principal vivier de locuteurs francophones dans le monde. Pour la raison d'être de l'organisation, Eric Manirakidza a joint en Normandie l'ancien fonctionnaire de l'UNESCO, Athanase Karayenga.
Mais il faut poser la question, à quoi sert une langue dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent, dans n'importe quelle condition de vie des gens et des citoyens? Une langue, c'est un outil de communication, c'est un outil de culture, c'est un outil d'éducation, c'est un outil pour voyager, c'est un outil pour se cultiver. Une langue, c'est la vie.
Et au-delà de la diversité culturelle et linguistique?
Toutes ces langues suivent les dynamiques de l'histoire, suivent les dynamiques de l'économie, suivent les dynamiques de la science.
Et la jeunesse africaine, qu'est-ce qu'elle gagne à part parler français?
Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre le chinois? Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre l'arabe? Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre le russe? Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre le swahili? Qu'est-ce qu'on gagne à apprendre même le bambara, qui est le damanan, qui est une langue du Mali? On gagne toujours quand on apprend une langue, un patrimoine commun de l'humanité que nous devons absolument préserver parce que c'est un enrichissement extraordinaire.
Un pont pour l'intégration économique?
Tout à fait. Pour les zones régionales, par exemple l'Afrique de l'Ouest qui est francophone majoritairement, on voit bien que le Nigeria, qui est pourtant un grand pays, un grand peuple qui parle plusieurs langues africaines, mais aussi l'anglais comme langue héritée de la colonisation.
C'était Athanase Karayenga, ancien fonctionnaire de l'UNESCO. Et c'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Joselle Morissin, à la console Glenn Alice, à la présentation Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée en compagnie de Henri Francisque pour un rappel de l'actualité.
VOA Afrique.